Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons tirer des leçons à partir de la vie d'un personnage nommé Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Ceci en compagnie d'Alain, qui exerce un ministère pastoral dans le sud de la France.
Nous continuons aujourd'hui l'étude sur la vie de Joseph avec le récit qui se trouve au chapitre 37 du livre de la Genèse. La dernière fois, nous avons parlé de Joseph et appris que son père l'avait envoyé auprès de ses frères pour voir comment ils allaient. À présent, nous reprenons ce récit au moment où Joseph arrive auprès d'eux. Que va-t-il se passer?
Au verset 18, nous apprenons que les frères de Joseph l'aperçoivent s'approcher au loin. Ils se mettent à comploter à son sujet et décident de le tuer. Leur haine et leur rancune contre lui sont telles qu'ils en arrivent à passer à l'acte. Leur mépris pour Joseph est profond. Ils ne mentionnent même pas son nom, ils le nomment plutôt ce rêveur.
C'est vraiment méchant.
Oui, et ajouté à cela, ils se mettent d'accord pour mentir à leur père en lui racontant une histoire mensongère. Leur but est de faire échouer la réalisation des rêves de Joseph. Au verset 20, il est dit « On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves ». Ils sont profondément méchants et méprisent la loi donnée par Dieu à Noé concernant la gravité des meurtres. Cet acte cruel est un crime non seulement contre la victime, mais aussi contre Dieu. Leurs pensées méchantes sont devenues telles qu'ils en arrivent au meurtre. Quel avertissement pour nous! Car il est dangereux de tolérer le péché dans son propre cœur. Dans le cas des frères de Joseph, la rancune a grandi. Elle s'est transformée en haine jusqu'à les conduire à vouloir commettre un meurtre.
Est-ce qu'ils ont tué Joseph?
Non, car Ruben, le fils aîné de Jacob, va intervenir à temps. Ainsi, juste au moment où les plans de Dieu pour Joseph semblent échouer, au moment où nous pensons qu'ils ne se réaliseront jamais, nous lisons dans les versets 21 à 25 que Ruben intervient.
Et de quelle façon alors?
Il suggère que Joseph soit jeté dans une citerne et que ses frères ne le tuent pas. Une citerne est un puits rempli d'eau et dans notre histoire, la citerne est vide. Ruben propose que Joseph soit jeté dans la citerne, car plus tard, il espère l'en sortir sans que ses frères ne le sachent afin de le sauver. Quand Joseph arrive à la portée de ses frères, ceux-ci l'attaquent et lui enlèvent son beau manteau, ce vêtement qui a provoqué tant de jalousie de leur part. Et ils jettent Joseph dans le puits. L'angoisse de Joseph est grande, et il implore ses frères de le laisser partir. Mais ils refusent de l'écouter.
Ces hommes sont durs et cruels.
Oui, mais combien merveilleuse est la souveraineté de Dieu qui a amené Ruben à agir de la sorte, juste au bon moment. Et même si en cet instant Joseph se croit abandonné, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu voit. Mais voilà que peu de temps après, ses frères mangent ensemble comme si de rien n'était. Ces hommes sont sans pitié, leur cœur indifférent aux appels de Joseph. Et nous voyons ici ce que le cœur de l'homme est capable de faire. Le péché est vraiment affreux.
Oui, vraiment.
Tragiquement, l'homme n'a pas changé. De génération en génération, son cœur reste empli de haine, son cœur reste dur. D'où le besoin d'un sauveur qui apporte le pardon de Dieu. Et combien il est bon de savoir que notre Dieu Tout-Puissant nous a donné un tel sauveur en Jésus-Christ.
Mais Joseph, que devient-il? Est-ce que Ruben va venir le sauver?
Non, Ruben s'absente quand ses frères commencent leur repas. Peut-être s'absente-t-il pour s'occuper des moutons qui pèsent dans les champs. Or, pendant son absence, Joseph est vendu comme esclave.
Comment cela est-il arrivé?
Eh bien, ses frères virent une caravane de marchands, les Médianites, passer. Cette caravane se rendait en Égypte avec ses marchandises et ses chameaux. C'est alors qu'il vint à Juda l'idée, pour leur éviter de tuer Joseph, de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Au moins, Juda semble avoir le sentiment qu'il n'est pas bon de tuer un membre de sa famille. Il suggère que Joseph soit vendu comme esclave et tous ses frères sont d'accord. Ainsi, Joseph est vendu pour 20 pièces d'argent et est amené en Égypte.
Et que feront les frères de Joseph ensuite?
Une fois Joseph emmené par les marchands, Ruben revient et va à la citerne pour le secourir. Mais bien sûr, il n'y est plus. Désespéré, il déchire ses vêtements.
Pourquoi fait-il ça? Pourquoi déchirer ses vêtements?
Eh bien, il exprime ainsi sa tristesse, selon la culture de son époque. De plus, en tant que frère aîné, il est responsable de Joseph devant son père.
Que va-t-il faire alors?
Ses frères se mettent à réfléchir sur la manière de tromper leur père. Pour cela, ils déchirent le beau manteau de Joseph, tuent une chèvre et répandent son sang sur le manteau. Puis ils apportent ce vêtement à leur père afin de lui faire croire qu'un animal a tué Joseph.
Quel acte affreux!
Oui, et en agissant ainsi, non seulement ils déshonorent leur père, mais aussi ils se vengent de ce qu'il a préféré Joseph plus qu'eux. Ainsi, ils s'enfoncent dans le péché et se servent même d'un péché pour en cacher un autre.
Et quelle est la réaction de Jacob face à cette nouvelle tragique?
Jacob les croit. Il en conclut qu'un animal féroce a tué Joseph. Sa détresse est immense. Il est inconsolable. L'enfant qu'il chérissait plus que tout autre lui a été enlevé et il croit qu'il est mort. Lui aussi déchire ses vêtements et se revêt d'un sac. Et très longtemps, il va porter le deuil sur ce fils. Totalement hypocrite, tous ses autres fils essayent de le consoler. Ils savent la vérité. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Il continue à s'enfoncer dans le péché. Il ne voit plus d'autre issue que de continuer à mentir. Lisons dans le livre des Proverbes le chapitre 12 et le verset 22 qui nous dit que Dieu est le mensonge.
Volontiers. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. Et est-ce que le Nouveau Testament parle aussi du mensonge?
Oui, Paul nous dit très clairement de rechercher la vérité. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 25, il dit « C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. » Mais les frères de Joseph ne cessent de mentir, et la détresse de Jacob est telle qu'il refuse d'être consolé. Il déclare qu'il gardera le deuil de son fils jusqu'à la fin de ses jours.
Il est vraiment terrassé, mais qu'arrive-t-il à Joseph pendant ce temps?
Eh bien, Joseph est emmené en Égypte, où il est vendu comme esclave à un homme nommé Potiphar. Et le récit nous apprend que cet homme est très important. Il est décrit comme étant l'un des officiers de l'armée du Pharaon, un capitaine de la garde.
À la fin de ce chapitre si triste, nous pourrions facilement en conclure que les rêves de Joseph ne se réaliseront jamais. C'est le désastre total.
Oui, il serait facile de penser ainsi, et cela mettrait Dieu de côté, cela mettrait en doute ses plans, sa puissance. Mais le Seigneur peut annuler les actions pécheresses des hommes. Pendant que les frères de Joseph cherchent à lui faire du tort, Dieu est à l'œuvre afin d'accomplir ses promesses. Et elles s'accompliront non seulement pour Joseph, mais aussi pour tous les membres de sa famille. Cette vérité ne devrait pas être utilisée comme excuse pour justifier le péché. Non, Dieu hait le mensonge, il hait les actes violents et jugera ceux qui sont coupables de telles actions. Mais en même temps, Dieu peut transformer le mal en bien. Et là où le mal semble triompher dans nos vies, nous pouvons avoir confiance en notre Seigneur, le souverain maître.
Merci Alain. Nous savons que certains parmi vous ont connu ou connaissent bien des drames dans leur vie. Lors de ces moments douloureux et bouleversants, la tentation existe alors de penser que Dieu nous a abandonnés ou bien qu'il n'est plus maître de la situation.
Mais Alain nous rappelle que cela n'est pas le cas. L'Éternel a agi en souverain maître dans la vie de Joseph, et il est aujourd'hui encore souverain dans la vie de celui qui se confie en lui. Lorsque nous sommes plongés dans l'obscurité les nuits, il peut nous arriver de penser qu'elles sont interminables. Mais nous savons toutefois que l'aube fera toujours place à la nuit. De la même manière, les épreuves difficiles à supporter peuvent sembler interminables. Toutefois, la Bible nous donne cette assurance, cette espérance. Dieu mettra fin un jour à tous nos malheurs. Il est le maître souverain. Il est puissant pour accomplir tous ses desseins.
À présent, Jean-Marc va poursuivre ses méditations bibliques sur les paroles de Jésus, appelées les Béatitudes. Il commence avec la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8.
Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Lors de nos dernières méditations portant sur ce verset, nous avons appris deux leçons essentielles. D'abord, les hommes et les femmes ont un cœur impur, c'est-à-dire que leurs actions sont motivées par leurs mauvais penchants et désirs égoïstes. Ensuite, nous avons appris que grâce à son œuvre de salut accomplie sur la croix, seul Jésus peut nous purifier. Selon la promesse contenue dans le verset lu, Ceux qui ont reçu, grâce à Jésus, un cœur pur, verront Dieu. Que signifie voir Dieu ? Avez-vous déjà fait l'expérience à l'école de ne pas parvenir à résoudre un problème en mathématiques, alors que votre instituteur, maintes fois, cherchait à vous l'expliquer, sans jamais pourtant parvenir à se faire comprendre ? Jusqu'au jour où un nouvel instituteur est venu enseigner dans votre classe, avec une tout autre méthode pédagogique. Alors tout d'un coup, vous avez tout compris, et dorénavant, les problèmes en mathématiques ne vous posent plus aucune difficulté. Au moment de comprendre, tout est devenu clair, et vous avez pu vous exclamer « Ah, maintenant je vois !» Quand Jésus nous purifie de nos péchés, le Saint-Esprit vient alors habiter en nous, et il nous éclaire, afin que nous parvenions à comprendre les vérités divines. Cela fut mon expérience. Pendant ma jeunesse, j'ai souvent entendu la parole de Dieu prêchée, sans vraiment pourtant parvenir à la comprendre. Et puis, lorsque j'ai accepté que Jésus me purifie de tous mes péchés, j'ai tout d'un coup saisi tout ce que l'on m'avait enseigné durant ces années. Et je me suis dit, maintenant, je vois. Car dans mon cœur, j'ai vu Dieu. J'ai pu apercevoir quelque chose de sa grâce et de sa gloire. J'ai pu saisir bien des vérités le concernant. Je n'ai pas eu de vision, ni vu Dieu de mes propres yeux. Les visions sont plutôt rares. Je veux parler de mon intelligence qui a été renouvelée. Elle a été éclairée, afin que je puisse saisir le salut de Dieu et m'émerveiller devant lui. Cela est-il votre expérience ? Si ce n'est pas le cas, je prie pour qu'un jour les vérités bibliques, qui aujourd'hui vous semblent être des mystères impénétrables, puissent devenir si claires que vous vous exclamerez « Maintenant, je vois ». Je vous rappelle que nos yeux ne pourront voir Dieu tant que notre péché ne lui aura pas été confessé. Ainsi, il nous faut venir à Jésus et le supplier de nous purifier de nos fautes. Et nous sommes tout à fait confiants qu'il le fera, car sur la croix, il a porté nos péchés, et c'est grâce à ce sacrifice que Jésus peut vous purifier. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous ne devons pas nous attendre à voir Dieu de nos propres yeux, mais un jour viendra où tous nous verrons Dieu.
Nous vous encourageons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Nous y découvrirons ce que « voir Dieu » signifie.
En attendant, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle. Jésus est celui qui peut nous purifier de nos fautes. Il est digne de toute notre reconnaissance. Sur la croix, il est mort afin d'obtenir notre purification.
Que l'Éternel vous aide chacun à le connaître et à grandir en lui. Sur ce, nous vous disons au revoir.
Au revoir et à bientôt.